Bonjour à toutes et à tous. Je pensais que nous serions moins nombreux parce qu'une partie de la paroisse est à Rome. Pas en pèlerinage, hein, pour un voyage culturel. Et ce qui me vaut le plaisir d'être parmi vous ce matin. Il y a la caméra là-haut, oui. Et nous remercions le Seigneur pour ce temps de repos, de partage et d'écoute. Rappelons encore et toujours que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Sauveur, je suis au milieu d'eux. J'attends bien, nous sommes un peu plus que deux ou trois, sans compter qu'il y en a qui nous regardent par les réseaux sociaux. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le Seigneur avec le premier spontané que vous trouvez sur les pages feuilles blanches dans le livre de Cantiques. Viens en cette heure au tendre Père. Je vous invite à poursuivre notre louange en restant debout et en chantant le psaume 8 que vous trouverez dans les livres de Cantiques, bien sûr. Psaume 8, strophes 1, 2, 3, 4 et 6. grâce. J'ai une belle sœur qui est écologiste, et elle n'aime pas que je chante le cinquième couplet. Les animaux aux pieds de l'homme, ça ne lui plaît pas du tout. Alors, écoutons comment le Seigneur veut être aimé. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car la loi se résume dans ce premier commandement : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici, dit Jésus, le second commandement qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et donc, je vous invite à chanter le spontané suivant dans ta parole, ô Dieu. Reconnaissons notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, car, comme Paul, nous faisons si souvent le mal que nous ne voulons pas faire et ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu... J'en ai oublié un. Non, c'est bon. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Pardonne-nous d'avoir limité notre service à ceux qui nous plaisent et d'avoir négligé ceux qui nous sont indifférents ou hostiles. Pardonne-nous et aide-nous afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à mieux aimer notre prochain. Vers toi, j'élève mon âme. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 252. En entier, 252. Prenez place. Au moment d'ouvrir ton livre, Seigneur, nous te prions. Nous te prions de nous donner la foi et l'intelligence de ces textes que des hommes, et des femmes peut-être, entre le Xe siècle avant notre ère et le Ier siècle après la naissance de ton Fils, ont rédigés, inspirés par toi, mais qu'ils ont pu percevoir et transcrire à travers le prisme des époques où ils vivaient. Permets-nous de percer le brouillard du temps. Je vous invite à écouter la lecture donc de quelques lignes de l'Évangile selon Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, lorsqu'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront « Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. » Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole. Aide-nous à la comprendre tant de siècles après qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Le texte que je viens de vous lire aborde deux thématiques apparemment très différentes, hein, le fait de tout abandonner pour suivre Jésus et est-ce qu'il ne faut pas réfléchir avant d'entreprendre une action. Mais ces deux thématiques sont liées par une jonction « en effet ». Donc il doit y avoir un rapport entre les deux. Je vais commencer par réfléchir avec vous sur la seconde partie, celle qui traite des bâtisseurs de tours et des chefs de guerre imprudents. Puis nous verrons comment relier ces paroles dont Jésus nous dit que l'une découle de l'autre. Dans un village de Charente-Maritime, que je fréquente beaucoup, il y a depuis des décennies une maison en construction inachevée. Ça va là ? C'est avenue des Vergneux, pour ceux qui connaissent. Alors, elle est habitable et habitée, mais elle est inachevée. Je ne sais pas pourquoi. Problème de santé, du propriétaire ou de financement. Je passe devant presque tous les jours. Et je pense, à ce moment-là, ce que nous raconte Jésus sur l'homme qui n'a pas pu achever la construction d'une tour. Vous voyez que ce texte est donc d'actualité. On peut aussi méditer sur ces rois qui débutent une guerre alors qu'ils ne sont pas en mesure de la gagner et qui devraient plutôt négocier. Il suffit d'ouvrir son journal. Alors, cette histoire de bâtisseur de tours imprudents, elle est bizarre. Enfin, les paroles de Jésus sont souvent étranges, mystérieuses. Celle-ci aussi, mais en quelque sorte au second degré. Elle est étrange parce qu'elle est banale. Évidemment, il faut réfléchir et calculer avant d'entreprendre une construction. Ce principe saint apparaît quand même contraire à ceux qui ont régi l'action des grands hommes de la Bible et de l'histoire. Moïse, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc. Je me souviens que le pasteur Marshall, dans le même ordre d'idée, citait Lénine, qui lui aussi s'était lancé dans une folle aventure, parfois pour arriver à un but différent de celui qui était prévu, sans paraître avoir bien réfléchi. Jésus lui-même ne semble pas avoir suivi le précepte qu'il nous donne. Il est parti d'un trou perdu de l'Empire romain. Il parlait une langue vernaculaire peu pratiquée, l'araméen. Il s'est entouré d'une douzaine de bras cassés. Judas, qu'il trahira. Pierre, qui va le renier trois fois. Jacques et Jean, que Jésus surnomme les fils du tonnerre. L'expression a été abondamment commentée, mais je me souviens que le pasteur de Turckheim disait « Les fils du tonnerre n'avaient pas inventé la foudre. » Et c'était un peu les Dupont-Dupont des évangiles. Et vous savez comment tout ça a fini pour Jésus, par un supplice cruel et infamant. Mais attention, Jésus, comme le bâtisseur idéal de la tour, lui, il a pris le temps de calculer sa dépense. 30 ans dans un atelier de charpentier à Nazareth, 40 jours dans le désert, à Paris, après avoir été baptisé dans le Jourdain, et on le décrit souvent s'asseyant à l'écart pour méditer et prier. Il a calculé la dépense. La dépense, ce fut la mort sur la croix. Et il a triomphé, puisque nous sommes là aujourd'hui. Bien des tours inachevées, bien des ruines, bien des échecs militaires ne sont pas nécessairement le fruit de l'imprévoyance. Que d'injustes échecs, que de victoires choquantes. Alors nous nous remettons à Dieu pour ces scandales qui échappent à notre raison. Nos églises aussi sont en construction, au sens figuré bien sûr. Elles sont bâties parfois avec des matériaux douteux, des dogmes inquiétants. Mais les fondements sont fiables et solides. Ils ont été posés par un autre, par Jésus. Alors revenons un peu en arrière. Le texte sur ce bâtisseur commence par « en effet ». Souvent dans les évangiles, il y a des liaisons de nature surtout chronologique qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux. En ce temps-là, un jour de sabbat. Mais en effet, cela suppose un lien intellectuel avec ce qui précède. Et ce qui précède, que Luc nous rapporte, c'est une phrase de Jésus, « Il faut détester sa famille ». Incidemment, je ne sais pas où est passé le cinquième commandement dans tout ça, et même sa propre vie. Quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. Et là, nous revenons, ça a l'air d'être le contraire, nous revenons à la notion d'excès, à la folie de la foi. Et ça raccorde avec la fin du chapitre que je vous ai lu, qui vient après l'histoire des bâtisseurs et des rois, verset 33, qui encadre la parabole de la tour et de la guerre. Quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Quel rapport avec une tour à construire ou une campagne militaire? Porter sa croix, évidemment c'est écrit a posteriori, c'est un sacrifice, c'est renoncer à faire de soi-même sa propre idole, c'est renoncer à soi-même pour aller au-devant des autres. Mais attention, l'appel de Jésus à porter notre croix n'est justement pas une incitation à renoncer à calculer la dépense. Ça ne s'oppose pas. Le disciple ne doit pas foncer sans calcul, commencer à construire aveuglément ou partir en guerre inconséquemment sous prétexte que Dieu pourvoira. Le disciple doit cheminer entre confiance en Dieu et sagesse. Comment les concilier ? À propos du roi qui envisage de partir en guerre, Jésus recommande bien évidemment la négociation de paix. Jésus fait l'éloge du compromis. Bien des personnages de la Bible ont fait des compromis. Ils ont rusé. Abraham, qui a fait passer son épouse pour sa sœur afin de la vendre au roi local et de ne pas se faire assassiner. Jacob, qui s'est fait passer pour Ésaü, son frère, auprès de leur père Isaac, qui était aveugle. David a guerroyé chez les Philistins. Je vais reprendre une expression typique de la langue de bois politicienne d'aujourd'hui. Compromis, ça n'est pas compromission. Il y a une radicalité dans la condition de disciple. Radicalité qui n'exclut pas la sagesse au moment de construire une tour ou d'entreprendre une action, militaire ou autre. Plus loin, chapitre 16, Luc précise cette radicalité. On ne peut servir à la fois deux maîtres. Il cite, on ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. Les événements auxquels nous sommes confrontés, les décisions à prendre, les actions qui nous sont offertes, nous invitent à naviguer entre ces deux exigences sur une ligne de crête. Nous devons calculer les risques, la dépense, les conséquences possibles, en sachant que nous sommes faillibles. Mais ces dépenses, de toute nature, relèvent de nos affections personnelles, de nos convictions de croyants, de nos propriétés matérielles, de nos convictions donc de croyants, d'hommes et femmes de bonne volonté. Il faut aussi, en calculant, renoncer à nous-mêmes, tout en gardant la confiance en l'amour que Dieu nous manifeste. Amen. Je vous invite à vous lever pour écouter la lecture d'une confession de foi. Confession de foi qui vient d'une église britannique, Saint-Marc, à Sheffield. Vous verrez qu'il y a des allusions typiquement britanniques. Je crois à la force créatrice agissant en toutes choses et en l'interdépendance de tous les peuples et de la création. Et je crois que c'est l'esprit qui donne son énergie vitale à tout ce qui existe. J'aime la vie qui anime toute chose et je crois en elle. Je crois en la puissance infinie de l'amour, du pardon, de la compassion et de l'espérance. Je crois qu'il faut lutter contre les forces négatives de la méfiance, de la jalousie, de l'intolérance et de l'impatience afin de promouvoir la justice et le fair play. Je crois au bonheur de chaque être humain. Je crois au bonheur de chaque être humain à être accepté tel qu'il est et à sa liberté de pouvoir être lui-même. Je crois au pouvoir de la musique, de l'art, de la littérature, du cinéma, de la création et du dialogue entre les humains pour éveiller le sens du divin. Je crois que dans la tradition chrétienne, Jésus a trouvé la perle de grand prix et a su montrer par son enseignement et sa crucifixion la voie de l'amour désintéressé. Je crois qu'il y a d'autres voies dans le monde que celles de la tradition biblique qui conduisent à la vérité. Je crois que le royaume de Dieu peut être atteint ici et maintenant, que les vérités du credo que voici sont éternelles, alpha et oméga, enracinées dans le passé, le présent et l'avenir. Je crois que ce qui survit de nous est l'amour que nous avons donné aux autres et à la création. Je crois que l'enfer n'existe pas, sauf lorsqu'on attend l'autobus sous la pluie un soir de novembre, lorsqu'on est perdu, tout seul, abandonné, affamé, dans le froid et la pauvreté, ou lorsqu'on est traité injustement. Je ne crois pas être sauvé par du sang, de la souffrance et un sacrifice. Je ne crois pas que Dieu soit au sommet d'une hiérarchie qui descend jusqu'à l'homme, puis aux animaux, aux plantes et aux objets inanimés. Je ne sais pas si je crois en la vie après la mort. D'ailleurs, qu'elle existe ou non, ne changerait rien à mon comportement. Je ne sais pas comment le monde a été créé, j'y réfléchis. Je crois en la vie avant la mort. Je crois en l'esprit. Je crois que Jésus était sensationnel. Je crois que la Bible dit quantité de choses merveilleuses, mais aussi des choses discutables qu'il faut trier. Je crois en l'amour, en la lumière et au partage. Amen. Je vous invite à chanter le spontané suivant. C'est le moment des annonces relatives à la vie de la paroisse. Monsieur le conseiller presbytéral.
Bonjour à tous, m'entendez bien ? Super. Bienvenue à tout le monde, ceux qui, les premiers, qui sont la première fois vous êtes là, bienvenue au foyer de l'âme, c'est un foyer où on se sent très bien. Moi c'est Thomas, conseiller presbytéral. Donc quelques annonces pour aujourd'hui. On a toujours la collecte au profit de l'épicerie solidaire qui a lieu à l'entrée. Vous pouvez ramener des denrées avant et après le culte. C'est Françoise ici qui est là, qui s'occupe de ça. Et ils cherchent aussi encore quelques bénévoles aussi pour occuper des permanences quelques dimanches. Super, merci. Le jeudi 12, donc ce jeudi, on a la pause spirituelle qui a lieu à 12h30 ici au temple. On a dimanche 15, c'est le culte de rentrée. Donc on a pas mal de choses, ça prendra un petit peu plus de temps qu'aujourd'hui. On a l'accueil des enfants de l'école biblique éducatée. On a une confirmation et on a une scène aussi. Donc gros programme pour le culte de rentrée. Le samedi 21, on a les journées européennes du patrimoine. Donc on a Adrien qui assure des visites à partir de 13h. Et on a Frédéric qui va nous faire un concert à 17h30 ici au foyer de l'âme. Il y a aussi Frédéric qui va organiser un concert le jeudi 26 à 20h. Il y aura sûrement une affiche qui sera disposée à l'extérieur du temple. Donc venez nombreux et tous ces événements, bah, évidemment, invitez vos amis, votre famille à venir. Et enfin, Didier en a parlé, c'est les membres du conseil presbytéral sont actuellement à Rome pour un voyage d'études, dont je suis le seul qui est encore là, et ils vont revenir dimanche prochain. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le temps de l'offrande, donc offrande joyeuse. On va faire passer des paniers et bientôt, on pourra payer par carte bleue. C'est en cours. Merci.
Donc, pendant l'offrande, je vous invite à vous lever et à chanter le cantique 266, si je ne m'abuse. Place. Nous entrons dans le temps de l'intercession. Notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Conduis-nous à leur rencontre. Nous te prions pour les prisonniers. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous de leur offrir notre appui. Nous te prions pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Inspire-leur de vouloir le bien du plus grand nombre et non celui de leur clan ou de leur parti. Et nous te prions, dans le secret de nos cœurs, pour ceux qui nous sont chers. Et nous voulons te redire tous ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous avons le spontané suivant. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Nous allons quitter ce temple, retrouver la vie quotidienne, nos habitudes, nos joies, nos soucis. Annoncer partout la bonne nouvelle de la surabondance, de la grâce, du pardon et du salut, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur de la paix vous accompagne et vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Bon dimanche.